Produits de saison. Plus d'infos sur les-menus-services.com.
Dimanche à 12h, retrouvez le grand jury spécial élections européennes.
C'est le premier débat entre les 7 têtes de liste aux élections européennes. Programme contre programme, argument contre argument. Pour qui allez-vous voter? 2 heures d'émission pour vous faire une opinion en direct sur RTL et Paris Première, en partenariat avec M6, Le Figaro et LCP, la chaîne parlementaire.
Le grand jury spécial élections européennes, présenté par Olivier Bost, c'est dimanche entre 12h et 14h sur RTL. RTL.
Bonne soirée, foot, il est 20h. Et toute l'info avec vous, Rémi Jacob.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Ils étaient, selon la CGT, plus de 200 000 manifestants aujourd'hui dans les rues de France. 121 000 selon le ministère de l'Intérieur. Un 1er mai qui a donc logiquement moins mobilisé que celui de l'an dernier, en pleine réforme des retraites. À noter que des tensions ont éclaté en fin de cortège à Paris. Un peu plus tôt dans la journée, des violences ont également éclaté dans le centre-ville de Nantes, avec notamment une banque attaquée par des antifas. Et puis à Saint-Étienne, Raphaël Glucksmann a été empêché de rejoindre le cortège. La tête de liste PS Place Publique qui a été prise à partie par une cinquantaine de personnes, dont des militants antifa. Marie-Bénédicte Allaire a recueilli sa réaction pour RTL.
Cette attaque, elle vient dans un contexte qui est le contexte d'une extrême radicalisation et brutalisation du débat public à laquelle il faut mettre fin maintenant. Moi, je vous le dis, ces gens qui ont un rapport violent à la chose publique, à la démocratie, eh bien, sont dangereux pour notre démocratie. Et moi, je ne baisserai les yeux ni devant eux, ni devant personne.
Raphaël Glucksmann au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Et puis ce 1er mai a également été marqué par un grand meeting du Rassemblement National à Montpellier. Meeting au cours duquel Jordan Bardella a tenté de garder ses troupes mobilisées à un mois seulement des élections européennes. Et cela alors qu'il est largement en tête des intentions de vote. 31% selon le dernier sondage Toluna Harris Interactive pour RTL. Très loin devant la liste de la majorité présidentielle conduite par Valérie Ayé, crédité de 16% d'intention de vote. Marine Le Pen qui s'en est d'ailleurs pris à cette liste au cours du meeting, écoutez.
Nous devons les contrer, nous devons les sanctionner, nous devons les congédier. Donc le 9 juin, pas d'abstention, mais pas de dispersion non plus.
Marine Le Pen qui s'exprimait lors de ce meeting du Rassemblement National aujourd'hui à Montpellier. Et puis, en déplacement en Israël, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, bien décidé à arracher une trêve entre l'État hébreu et le Hamas. Le diplomate a indiqué que si le Hamas rejetait l'offre de trêve, il montrerait alors, je cite, son peu de considération pour les Palestiniens. Dans le même temps, il s'est également fermement opposé à l'offensive qu'entend mener Israël sur la ville de Rafah dans le sud de Gaza, où sont actuellement massés 1,5 million de Palestiniens. Votre météo avec 14 départements placés ce soir en vigilance orange pour orage entre la Bourgogne, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. En Normandie, 5 autres sont en vigilance orange, cette fois-ci pour pluie, inondation et crue. Demain, la perturbation concernera encore une grande moitié est du pays, avec des pluies plus marquées dans le sud, parfois orageuses sur le nord-est et en Corse. Retour d'un temps plus calme sur la face Atlantique qui va gagner au fil des heures la Bretagne, la Normandie et le sud-ouest avec encore quelques averses. Du côté des températures, comptez 12 à Besançon, 14 à Paris, Marseille et Reims, 15 à Toulouse et 19 à Bastia et Strasbourg. Et puis les courses, elles avaient lieu cet après-midi à Saint-Cloud. Il fallait jouer le 5, le 9, le 6, l'As et le 14. Félicitations à tous les gagnants. RTL, il est 20h passé de 3 minutes dans moins d'une heure. C'est évidemment le coup d'envoi de Dortmund PSG, demi-finale allée de la Ligue des Champions. Et pour vous faire vivre cette soirée événement sur notre antenne, tout de suite, RTL Foot spécial Ligue des Champions. Et c'est en votre compagnie, Eric Silvestro.
Rémi, je sens votre impatience et ça me fait plaisir. Alors par contre, faut quand même qu'on précise à nos auditeurs, vous avez une gourde jaune. Et ça, ça vient de la couleur présage de Dortmund. J'espère que vous n'allez pas porter préjudice au Paris Saint-Germain et au foot
français. Absolument pas, j'en serais malheureux.
Attention, je balance, hein, je divulgue les informations. À tout à l'heure, juste avant le coup d'envoi pour le rappel des principaux titres de l'actualité.
À tout à l'heure.
Merci d'écouter RTL.
RTL, vivre ensemble. Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, hein, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
La BD RTL du mois a été décernée à l'album La Route de Manu Larsonnet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy. Avec une originalité absolue mais dans une totale fidélité, Manu Larsonnet s'approprie l'univers sombre et fascinant de ce texte majeur de la littérature américaine. Une adaptation d'une beauté saisissante, à la fois puissante et poignante. La Route de Manu Larsonnet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy, aux éditions d'Argo, élu bande dessinée RTL du mois. Avec Cultura.
RTL Foot, c'est jusqu'à 23h.
Présenté par Eric Silvestro.
Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver, de vous faire vivre deux grandes soirées européennes sur l'antenne de RTL, le football à l'honneur. Ce soir avec Dortmund-PSG, demi-finale aller de la Ligue des Champions, et demain avec également Marseille-Atalanta, demi-finale aller de Ligue Europe, que vous pourrez suivre également sur M6 avec Xavier Demers qui est là ce soir avant de partir à Marseille demain. Salut mon Xavier.
Salut Eric, bonsoir à toutes et à tous.
Karine Galli de RTL Foot, évidemment ne pouvait pas manquer cette demi-finale aller de Ligue des Champions. Bonsoir Karine.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Et surtout notre duo, j'ai entendu dans RTL Bonsoir avec Julien Cellier, Isabelle Choquet, Cyprien Sini, Philippe Sanfourche et Nicolas Jeanjean qu'il faut appeler Dembélé Mbappé. Et pas Tom et Jerry ou je ne sais quoi. Salut
bien
messieurs.
Bien mieux Tom et Jerry pourtant.
Guten Abend. Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
On a déjà du mal à les entendre au milieu des 81 000 spectateurs là-bas à Dortmund dans ce stade complètement fou. Messieurs, on va vivre une grande soirée déjà pour commencer.
Oui, c'est une évidence, ça monte hein, tout doucement, enfin c'est monté tout au long de la journée dans une ambiance extrêmement estivale, il fait 25 degrés, il y a les Parisiens et les supporters de Dortmund qui se sont côtoyés tout au long de la journée. Je vous dis pas qu'il n'y a pas pu y avoir un ou deux points de friction de ci de là, mais en tout cas tout ce qui nous a été offert pendant toute la journée, alors que ça s'est mêlé, qu'il y avait quelques bières au milieu, tout s'est passé dans une ambiance extrêmement festive. On espère que ça va durer jusque là, jusqu'à la fin de la soirée, parce que pour l'instant c'est un sans faute, c'est une vraie soirée de foot, une vraie journée de foot comme on les aime.
Et même la bière était fraîche, même la bière était fraîche à 25 degrés.
Dortmund avait mis un DJ en plein centre de la ville, et en fait c'était pas pour les manifs du 1er mai, parce qu'il y en avait ici également, mais c'était vraiment pour que tout le monde se réunisse, et sur une des places principales du centre-ville on avait les milliers de Parisiens avec les milliers de fans de Dortmund à communier, à chanter, à se chambrer, mais tout ça dans une ambiance vraiment très, très bonne enfant.
Et c'est une bonne nouvelle de pouvoir avoir des déplacements de supporters pour ces grandes affiches européennes. On va tout vous dire évidemment sur ce Dortmund Paris Saint-Germain manche aller de cette demi-finale avant le match retour qui aura lieu dès la semaine prochaine et même dans 6 jours puisque ce sera le mardi 7 mai. Les compos, pas de surprise, vous allez les découvrir dans quelques secondes. On va parier évidemment sur cette rencontre avec nos spécialistes. Vincent Guérin, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain international français qui avait lui vécu une grande demi-finale de Ligue des Champions contre l'AC Milan en 1995, sera avec nous d'ici une dizaine de minutes. On aura également un supporter qui est parti avec son fils ce matin du Val d'Oise, 30 ans d'abonnement au Parc des Princes et qui a pris la route pour aller assister à cette rencontre. On essaiera de le joindre directement en tribune dans ce stade du Signal Iduna Park. Et puis on vous parlera également de Marseille Atalanta Bergame après 20h30. Hugo Hamelin, la conférence de presse de présentation du match avait lieu cet après-midi. On vous donnera les dernières infos. Il y a des retours de blessés côté OM, notamment Chancel Mbemba qui a repris l'entraînement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous entendrez également Benjamin Stambouli qui a joué au Paris Saint-Germain et qui a joué à Schalke, l'autre club de la Ruhr, et qui nous parlera de ce Borussia Dortmund en compagnie de David Lortolari, notre voix allemande dans le Conseil de l'Europe tout au long de la saison sur l'antenne de RTL.
Vous prenez un gros risque hein, quand vous évoquez dans la même phrase Schalke et Dortmund. C'est
ennemi juré.
Ouais, c'est le derby de la Ruhr.
Le derby de la Ruhr. Ah, il viendra nous parler de ce stade, notamment de Dortmund. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Oriane et Andréa à la réalisation, soyez les bienvenus. On va vivre une grande soirée. Il va y avoir du bruit, il va y avoir du spectacle, il va y avoir des buts. On espère de l'émotion et si possible, un bon résultat pour le Paris Saint-Germain.
RTL Foot.
Le but, la Vitinha.
On doit essayer de bien gérer nos émotions, la pression, et être ambitieux. Il ne faut pas voir la pression comme une menace. Je crois que nous arrivons au meilleur moment de la saison.
Il a raison, Luis Enrique, c'est le meilleur moment de la saison, les demi-finales de la Ligue des Champions, ce qui veut dire qu'un club français est encore engagé. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. Allez, direction tout de suite ce Signal Iduna Park avec Philippe Sanfourche et Nicolas Jorgerot. On va découvrir les deux 11 choisis par les deux entraîneurs, Edin Terzic et Luis Enrique. Pas de surprise, je disais, messieurs, ça va être donc être offensif et peut-être déséquilibré comme on aime.
Non, on va pas jouer le suspense trop longtemps. Fini les expérimentations, fini le laboratoire. Quand on est en demi-finale, Luis Enrique, il sécurise et il reconduit stricto sensus le 11 qui a été si brillant pour la qualification à Barcelone au match retour. On aura donc Gigio Donnarumma dans les buts. On aura donc le capitaine Marquinhos en charnière centrale aux côtés de Lucas Hernandez, puisque c'était la seule petite interrogation. Est-ce que Nuno Mendes, le latéral gauche portugais, pouvait tenir sa place? Il n'avait pas fait toute la séance hier. Il est bien là au coup d'envoi. Dans le 11 titulaire du Nuno Mendes à gauche de la défense, Achraf Hakimi, l'ancien de Dortmund, qui sera là lui aussi. Défense type donc pour le Paris Saint-Germain, défense à 4 au milieu de terrain. Vitinha, qui est un peu l'homme de la saison, est là pour réguler au centre de ce milieu de terrain avec Fabian Ruiz, l'homme qui est monté en puissance au fur et à mesure de la saison, et avec Warren Zaïre-Emery qui lui... Sans lui, on ne serait pas là, puisque c'est lui qui avait marqué le seul et unique but parisien ici même au Westfalenstadion au mois de décembre pour la qualification au terme de la phase de poule. Les trois hommes de l'attaque sont les incontournables, ceux qui ont tiré leur épingle du jeu tout au long de la saison. Évidemment, Kylian Mbappé, 43 buts au compteur, et à ses côtés Barcola sur la gauche et Ousmane Dembélé qui n'était pas là au mois de décembre lui non plus, il était suspendu, va donc faire ses grandes retrouvailles avec le public. Il s'était quitté sur une grève pour son départ à Barcelone. Je vous annonce qu'il ne va pas être accueilli avec des fleurs.
Côté Borussia Dortmund,
eh bien c'est l'équipe qui s'est imposée 4-2 en match retour, en quart de finale retour de Ligue des Champions. Et par rapport, si on fait un comparatif par rapport au match qu'on avait eu au mois de décembre entre Dortmund et le Paris Saint-Germain, en revanche on a 6 changements et il y a la défense qui est modifiée aux 3 quarts. Kobel qui vient d'ailleurs justement d'arriver à l'échauffement et qui a quelque peu réveillé le mur jaune qui est resté silencieux pendant une heure à regarder les supporters parisiens s'égosiller. Kobel dans le but, Rierson, Hummels, Schlotterbeck et Madsen pour cette défense à 4 du Borussia. Chan, le capitaine, associé à Sabitzer, et l'important Sabitzer évidemment au milieu de terrain, lui qui a eu quelques soucis récemment, il sera bien titulaire. Adeyemi qui n'a pas été en vue notamment en championnat récemment, mais qui est bien titulaire sur le côté droit de cette attaque de Dortmund. Sancho à gauche, auteur d'un très joli but notamment face à Leipzig samedi. Brandt en soutien de Füllkrug qui fait sa première saison en Ligue des Champions et qui est évidemment à la pointe de l'attaque du Borussia Dortmund. Voilà pour le 11 de Terzic.
Karine, Xavier, on a beaucoup dit, on a répété que c'est peut-être l'année ou jamais pour le Paris Saint-Germain, que le tableau était ouvert, que Dortmund c'était le candidat idéal pour une demi-finale de Ligue des Champions, que le PSG est ultra favori, que tous les voyants sont au vert, qu'il n'y a pas de blessés, que le groupe vit bien, que Luis Enrique s'est imposé. Oh là là, attention, tout ça me semble presque trop parfait.
Non mais vous exagérez un petit peu mon cher. Le PSG est favori sur l'ensemble des deux match et effectivement ils ont eu un calendrier qui était plutôt clément. Après on ne peut pas dire que le PSG va écraser Dortmund sur les deux matchs, mais Paris arrive en forme, Paris arrive avec un plein de confiance et ça change tout. Le match à Barcelone a forcément changé la donne dans les têtes et dans la façon aussi dont on voit le PSG, parce que le PSG n'est pas flamboyant, le PSG n'est pas exceptionnel, mais le PSG a inversé une situation qui était très mal embarquée. Ça c'est la réalité, et Dortmund c'est une bête qui n'est pas en pleine forme, on l'a vu sous se sont fait ratatiner par Leipzig et personne n'aurait imaginé que Dortmund serait en demi-finale. C'est très bien, c'est un club européen, mais c'est pas un monstre d'Europe.
Nicolas, j'insiste sur le fait que le Paris Saint-Germain arrive dans les meilleures conditions. On s'en parle depuis des semaines et on se dit en effet que c'est peut-être jamais arrivé avec autant de circonstances favorables.
Ah, c'est inédit parce que si on regarde l'histoire récente, quand on parlait de 2021 avec un Paris Saint-Germain qui était peut-être plus spectaculaire des fois dans des renversements de situation, quand il va gagner au Bayern Munich, quand il va gagner 4-1 au Barça, etc., mais qui avait vécu la blessure de Kylian Mbappé en demi-finale retour face à Manchester City. Si on regarde un petit peu les différents points comme cela, il n'y a pas de blessé majeur. Il n'y a pas de bisbille interne, en tout cas ça n'éclate pas sur la place publique. Il y a un entraîneur qui a fixé un cap au niveau sportif et qui a une main mise sur son groupe. Finalement, c'est une autre pression à gérer pour le Paris Saint-Germain, c'est de gérer le fait que tout aille bien. Ils ont toujours eu par moments des soucis à négocier et là c'est l'inverse, et donc c'est une, quelque part, une autre forme de pression, et il faut s'en accommoder.
On se focalisera, Xavier, sur Dortmund tout à l'heure après 20h30 avec David Ortolari, notre voix allemande, mais déjà un mot quand même sur cette équipe. Ce qui nous intéresse et ce qui nous plaît dans cette confrontation, c'est que le style de jeu de Dortmund est sans doute celui qui peut-être convient le mieux au Paris Saint-Germain, et notamment à ses trois flèches de devant.
Complètement, ce sont deux équipes qui sont très proches. On l'évoquait il y a quelques minutes dans RTL Soir.
Est-ce que je peux juste vous couper, parce que il y a les supporters parisiens. Il y a un supporter de Dortmund qui est décédé, qui s'appelle Marcel. Et en fait, il y a un message en allemand pour lui dire « repose en paix ». Et il y a tous les supporters de Dortmund qui se sont levés et qui ont applaudi les Parisiens. On vous parlait de cette ambiance depuis le milieu de l'après-midi, alors que le match a été classé à risque, mais c'est quand même, ça n'arrive pas souvent quand même, et notamment avec le Paris Saint-Germain sur certains déplacements. C'est quand même à noter.
C'est, merci de le préciser, évidemment. Nous voyons sur nos écrans de contrôle, on peut vous les décrire, ces images des tribunes stade de Dortmund, et notamment sur le mur jaune, dont on a beaucoup parlé déjà tout à l'heure.
Les supporters du Borussia Dortmund font partie des supporters les plus respectueux de Bundesliga. On sait qu'en Allemagne, il y a des groupes de supporters qui sont particulièrement chauds. Dortmund, ce sont vraiment des amoureux de football. Ce sont des supporters qui respectent énormément le sport, qu'ils aiment par-dessus tout, et qui respectent par-dessus tout les autres supporters aussi. Les supporters adverses, donc Nico fait bien de nous permettre de vivre ce genre de séquence, parce qu'on a besoin, parce que c'est pas toujours le cas. Et que ça fait plaisir de voir dans un match aussi important autant de fraternité. Pour revenir à Dortmund, oui, c'est une équipe qui peut correspondre au Paris Saint-Germain, parce que il y a beaucoup de similitudes entre la ligne offensive du Borussia, qui est capable à tout moment de faire la différence avec des joueurs de talent, même s'il manque de constance, c'est une réalité. Jadon Sancho a la capacité de faire basculer un match.
Non mais à tout moment. Auditeur auditrice de RTL, c'est le petit chouchou de Xavier.
Non mais j'en ai pas mal de.
Non mais le problème c'est que Jadon Sancho, c'était son chouchou quand la première fois à Dortmund, quand il était à City, quand, parce que le problème c'est qu'à Manchester United il a déçu,
mais depuis qu'il est revenu
on est quand même sur courant alternatif.
Je suis d'accord, mais il a toujours cette capacité dans les grands matchs de pouvoir faire la différence sur la moindre petite accélération, et il peut le faire parce que ce sont des joueurs qui aiment jouer ce type de match là il a son grand ami Kylian Mbappé, ils sont deux joueurs qui se respectent beaucoup, qui s'apprécient énormément. Voilà, quand on voit Adeyemi, Sancho des deux côtés, même si Adeyemi également manque de régularité, Füllkrug en pointe, c'est une équipe qui peut faire la différence à tout moment. Moi je suis un peu inquiet dans le cœur du jeu, parce que Emre Can était incertain, il est là, c'est un joueur qui compte dans l'équilibre de cette équipe du Borussia. Sabitzer a été préservé, Nicolas l'a dit, il va avoir, je pense, du rythme et de la fraîcheur. Et Julian Brandt n'est pas qu'un meneur de jeu en soutien de Füllkrug, c'est un joueur qui travaille énormément dans le cœur du jeu. Donc cette fameuse bataille du milieu de terrain m'inquiète toujours un peu. Voilà, j'ai le droit d'être un peu inquiet.
Mais vous avez le droit d'être inquiet, et il faut de toute façon toujours prendre l'adversaire avec beaucoup de précautions, et Dortmund n'est pas là par hasard.
On va voir dans les paris dans quelques secondes. Juste avant, je voudrais qu'on écoute Benjamin Stambouli, que Philippe Sanfourche a joint, notamment ce joueur qui a évolué au Paris Saint-Germain, qui a évolué aussi à Schalke en Bundesliga, donc l'autre club ennemi de Dortmund dans le derby de la Ruhr. Il nous parle de cette pression autour du Paris Saint-Germain, ce statut de favori, et aussi l'évolution du PSG depuis que lui a quitté le club de la capitale, qui pour lui, vous allez voir, est très positif.
C'est vrai qu'à l'approche de ces matchs-là qui sont capitaux pour le club, il y a les membres du board qui sont présents. Je me rappelle d'une intervention aussi du président Nasser El Khelaifi juste avant le match contre City, dans la causerie d'avant-match. L'enjeu se fait ressentir. Après, là, on est dans une époque différente. On est pratiquement 10 ans après. Le club a vécu plusieurs choses, dont une finale aussi de Ligue des Champions. Et en fait, toute cette expérience-là fait que, année par année, le club dans son ensemble, peu importe qui est l'entraîneur, qui sont les joueurs, on le voit avec le Real Madrid qui ne panique jamais parce que ils ont ce passé glorieux qui les rassure en fait. Déjà à l'époque, l'expérience de Laurent Blanc qui a connu des moments cruciaux dans sa carrière et qui nous fait sentir que c'est très important, mais c'est le jeu avant l'enjeu. Ça reste un voire deux matchs de 90 minutes, donc ça reste du jeu, ça reste de la tactique, ça reste du mental, et c'est sur le terrain, sur le rectangle vert que ça se décide. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent qu'un Luis Enrique, par son expérience, par son parcours de vie, il arrive à prendre la pression sur lui, et à donner aussi cette forme d'assurance. On sent qu'il est même à la limite de l'arrogance quand je pense au match avant le retour contre le FC Barcelone, pour dire je suis là, suivez-moi et ça va le faire. Et ça, c'est important pour un groupe.
Il y croit, Luis Enrique, ils y croient tous, les Parisiens. Philippe, Nicolas, précisons tout de même qu'il ne faut pas oublier que c'est un match aller-retour. Hein. Faut pas non plus faire n'importe quoi ce soir.
Oui, et le Paris Saint-Germain ne s'est jamais qualifié pour une finale sur justement cette configuration de match aller-retour, puisque 2020 c'était particulier, c'était sur un match. Et c'était aussi évidemment un paramètre à prendre en compte.
Après, les chiffres, on les retourne dans tous les sens. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain a aussi joué 6 fois Dortmund en Coupe d'Europe et n'a perdu qu'une seule fois. Donc au final, on est aussi sur un ascendant psychologique. Sur le match aller-retour avant le Final 8, année Covid, on se souvient, juste avant le confinement, le PSG avait renversé Dortmund au Parc des Princes au match retour, et ça avait été une sorte de déclic aussi pour la suite.
Qui rentre sur la pelouse, là on entend des gros sifflets.
Les joueurs du Borussia.
Ah, et c'est les supporters parisiens qui ont sifflé ou...
Non.
Nous on entend des sifflets dans le match.
On entend des cornes de nuit.
Les Parisiens, on va pas vous faire la photo toute la soirée parce que ce serait un peu redondant, mais il faut quand même s'y habituer. Je peux vous dire que visuellement, les 25 000 personnes dans cette tribune qui sont derrière le but de Kobel, il n'y a rien de comparable en fait. Il n'y a rien de comparable dans le monde entier. La densité, en fait, on voit les gens, ce sont des petits points les uns à côté des autres. Ils sont 25 000 massés. Mais il y a déjà des stades qui ne font pas 25 000 spectateurs en Ligue 1. Là, c'est une tribune derrière le but. C'est fou, visuellement, c'est extrêmement impressionnant.
Et on rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas ce stade et ce mur jaune, 40 mètres de hauteur, 100 mètres de large, 52 mètres de profondeur, 37 degrés d'inclinaison, 25 000 spectateurs debout.
Faut y aller.
Faut le vivre une fois, voilà.
C'est vraiment un stade où il faut aller parce que l'ambiance, elle reste gravée en nous à jamais. Et ces drapeaux, c'est vrai que Philippe.
Beaucoup de drapeaux, oui, et grands, immenses.
Ces drapeaux jaunes et noirs qui flottent, c'est impressionnant, c'est très, très impressionnant.
Et Kylian Mbappé, ça l'avait pas trop impressionné à 17 ans en 2017 lorsqu'il avait joué avec l'AS Monaco et avait marqué d'ailleurs dans ce stade.
Oui, enfin, on rappelle quand même que la tenue de ce match était dans un contexte très particulier et c'était même d'ailleurs un scandale.
C'est 24 heures après l'attaque du bus avec une.
C'était un scandale de jouer ce match-là le lendemain, alors qu'en plus il y avait notamment Marc Bartra qui avait été blessé. Et qui n'avait pas pu jouer.
Bien sûr.
Avec un bus attaqué en effet par une.
Mais vous n'entendez pas des cornemuses ou je suis folle? Non. Moi, j'ai l'impression que je suis à Rennes là.
C'est la sono.
Moi j'ai entendu Nico qui voulait évoquer les drapeaux surtout. J'ai entendu Nico qui.
On a du mal à les entendre nos reporters, mais c'est bon signe, ça veut dire qu'il va y avoir une ambiance de dingue. On va parier sur cette rencontre avant d'accueillir très vite Vincent Guérin pour nous parler de l'évolution du PSG toutes ces années. Allez, les paris.
Maintenant, 100% prono avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Et les cotes sont élevées pour ce Dortmund-Paris Saint-Germain parce que c'est équilibré, qu'il peut y avoir beaucoup de buts. C'est donc intéressant. 2,90 la victoire de Dortmund. 10 euros de misée, 29 euros de gagné. 3,75 le match nul, qui est la meilleure cote et peut-être un résultat intéressant d'ailleurs pour le Paris Saint-Germain. 10 euros de misée, 37,50 euros de gagné. Et 2,35 la victoire parisienne. Paris Saint-Germain favori donc, même à l'extérieur. 10 euros de misée, 23,50 euros de gagné. Karine.
Allez, une cote à 8, je vous propose. Et moi, je mise sur un PSG qui va être flamboyant en Allemagne avec un résultat final, victoire du PSG, nombre de buts, plus de 2,5 parce que je vois un match spectaculaire avec des faiblesses et des forces des deux côtés, notamment en attaque et en défense. Les deux équipes qui marquent, c'est un grand oui. Buteur multichance, Ousmane Dembélé, parce qu'il revient à la maison et parce que maintenant qu'il glisse, il marque des buts, donc c'est magnifique. Ou Füllkrug, l'ogre Füllkrug, parce qu'évidemment, il n'y a que des ogres dans cette équipe de Dortmund, comme nous a dit Xavier. Et l'équipe qui marque le premier but, le PSG, cote à 8, je prends des risques.
Premier but pour le PSG, c'est noté, cote à 8. Xavier.
Alors j'ai une cote un peu plus importante, j'ai une cote de 32, voilà, pour ce match où je vois un match nul, parce que je vois une rencontre très ouverte, Karine le disait, avec beaucoup de déséquilibre, deux équipes qui sont assez proches de par leur lacune défensive et de par leur talent aussi offensif, donc voilà, match nul, score exact multichance. Qui dit spectacle dit beaucoup de buts, donc 2-2
ou 3-3.
Buteur avec certitude, parce que j'aime bien les buteurs en ce moment.
T'es en pleine bourre en ce moment.
Il est en réussite.
Ah ouais.
Bon, deux talents. Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain et Jadon Sancho du côté du Borussia Dortmund. Ça nous fait une cote de 32.
Une cote de 32. Alors je vous donne des cotes un peu générales que nous a fourni notre partenaire Winamax. 88% des prises de Paris à la veille de ce match, c'était donc hier soir, étaient pour une victoire du Paris Saint-Germain. 6% seulement pour une victoire de Dortmund et 6% pour un match nul. La qualification, c'est encore plus parlant puisque 93% des prises de Paris sont sur une qualification du Paris Saint-Germain et les buteurs les plus misés sont Kylian Mbappé sans surprise à 65%, Ousmane Dembélé à 22% et Füllkrug à 4% pour le Borussia Dortmund. Et puis le score le plus joué sur ce Dortmund Paris Saint-Germain, eh bien c'est le 3 buts à 1 côté à 13,50 en faveur du Paris Saint-Germain. Voilà, vous avez toutes les infos, vous pouvez faire votre choix. En étant évidemment prudent, on ne fait pas n'importe quoi sur les prises de Paris. On marque une courte pause et on va essayer de retrouver Vincent Guérin, notre ancien joueur du Paris Saint-Germain et ancien international français, ainsi que Philippe, notre supporter qui a fait toute la route aujourd'hui avec son fils pour aller assister à ce Dortmund-Paris Saint-Germain. Ne bougez pas, RTL Foot, c'est jusqu'à 23h, coup d'envoi de Dortmund-PSG à 21h.
Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RTL.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 79 centimes.
Le concombre ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, le concombre est à 79 centimes la pièce.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et le deuxième est à moins 50%, soit 39 centimes le concombre. Ça revient à 1,18€ le lot de deux.
Oh, ils encombrent vraiment pas. On est mal.
Bah, c'est le concombre.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
En ce moment, chez Conforama, tout le monde gagne.
Avec la télé TCL 139 cm QLED et sa plateforme Google TV intégrée à 479€, soit 70€ d'économie.
Et en plus, jouez à notre grand jeu et tentez de remporter un salon du supporter entièrement équipé d'une valeur de 3800€.
Conforama, jusqu'au 3 juin, jeu sans obligation d'achat, voire règlement en magasin ou sur conforama.fr.
Chaque matin à 8h50.
Oui, c'est Jacques et Chasseur. Oui. Ça veut dire quoi, journée mondiale de la Terre? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait attention, on appuie sur le petit bouton de la chasse d'eau pour le pipi, puis sur le gros bouton pour la grosse commission, la journée de la Terre. Et que les 364 autres jours de l'année, on appuie sur le gros bouton, même pour un petit pipi, on perd la tête. Hein.
Retrouvez le sourire avec Laurent Gérard. Éric Silvestro,
RTL Foot jusqu'à 23h.
Et dans 34 minutes maintenant, le coup d'envoi de cette demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain avec Philippe Sanfourche et Nicolas Jean-Jean au commentaire, Karine Galli, Xavier Domergue m'accompagne en studio et Vincent Guérin, ancien joueur du Paris Saint-Germain qu'on connaît bien sur RTL et qu'on est ravi de retrouver, est également avec nous. Salut Vincent.
Salut Eric, ça va bien? Bonsoir bon, à toutes et à tous.
C'est le parfum des grands soirs, c'est pas à toi que je vais l'apprendre Vincent.
Ouais, bah évidemment, c'est bonnes ambiances et les bons sujets de, quand on aime le sport et le football.
Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis toujours, ah oh là là, 95, ça ne nous rajeunit pas hein, Vincent, mais cette demi-finale de Ligue des Champions contre l'AC Milan où tu étais évidemment titulaire, ça remonte, mais c'est toujours là j'imagine.
Oui, oui, ça reste à la fois bon souvenir et mauvais parce qu'on n'est pas sorti de cette double confrontation en allant en finale, mais bon, ça reste quand même un bon souvenir parce que ça reste des événements majeurs contre des équipes majeures aussi. Enfin voilà, c'est quand même des matchs spéciaux, mais de très haut niveau.
Boban et Savicevic. Bah, il fait mal au Paris.
Ah, Boban à l'aller.
Boban 89e à l'aller, le doublé de Savicevic au retour. C'était dur, hein.
Non, mais après, c'est une saison qui a fait la légende du Paris Saint-Germain. Vincent faisait partie de cette équipe qui était extraordinaire.
Ginola, Le Guen,
voilà, c'est une équipe qui nous a fait vibrer. Il y avait eu cette double confrontation en quart de finale face au Barça. Et c'était déjà une phase de Ligue des Champions réussie, Vincent. Et cette demi-finale contre le grand AC Milan, Eric vient de le rappeler, avec David Ginola, avec Georges Weah. David Ginola, il me semble d'ailleurs, qui touche la barre transversale, je crois, dans cette double confrontation, à un moment crucial. Donc c'est des moments forts, Vincent. Ça fait toujours plaisir de se remémorer ça, même si à l'arrivée, c'est vrai que l'issue avait été malheureusement négative.
Ouais, bah, on avait tiré deux fois sur le montant, une fois David, une fois Georges Weah, un pénalty qui nous avait pas été sifflé. Enfin bon,
c'était après, pas Nucci qui avait fait faute.
Ouais, exactement. Christian. Panucci qui avait fait faute sur David Ginola. Enfin, voilà. Après, bon, bah, c'est, le Paris Saint-Germain était pas spécialement très connu sur la place européenne. Au niveau des instants, je pense que Milan sortait, de compagnie européenne très réussie avec des titres de Ligue des Champions. Bon, c'est des petites choses, mais à l'arrivée, je pense que ça fait la différence. Mais bon, on n'avait pas à rougir, en tout cas, par rapport à ces équipes-là. Je pense que on était au niveau. Après, ça s'est joué à pas grand-chose, des petits détails. Et souvent, là, cette compétition européenne, bah, plus on avance dans les tours et plus la moindre faute d'inattention, bah, elle est coupable et sanctionnée. Et c'est ce qui fait justement la beauté de ces matchs-là, parce qu'on a affaire à des champions, et les champions, bah, vous faites une erreur, bah, ils vous sanctionnent derrière, et c'est ce qui fait aussi la qualité des équipes et des joueurs.
Vincent, le contexte est un peu différent cette fois. Le Paris Saint-Germain joue certes une très bonne équipe européenne, mais peut-être pas une équipe qui était aussi grande que l'AC Milan, vous, en 95, ou Manchester City lors d'une demi-finale passée, ou même le Real qu'on retrouvera peut-être, ou le Bayern en finale. Est-ce qu'il faut gérer, du coup, émotionnellement, il faut déjà gérer une demi-finale de Ligue des Champions? Et en plus, bien ce sûr. Statut un peu de favori qu'on a envie de coller sur le dos des Parisiens, même si eux essayent de s'en décharger un petit peu.
Ouais, alors il y a, comme tu le disais, il y a cet aspect émotionnel qu'il faut quand même, entre guillemets, neutraliser, enfin essayer de pas être pris par l'émotion par rapport à ce genre de match, par rapport à un stade où il va y avoir une ambiance quand même bouillonnante aussi, parce que les Parisiens, malgré tout, sur les matchs à l'extérieur, en Ligue des Champions, ça a été très compliqué tout au long de la saison. Donc il va falloir prendre quand même l'exemple de Barcelone, avec justement une entame débridée où les Parisiens ont été de l'avant, et je pense que ça leur a fait du bien. Bon, après il y a eu un fait de jeu effectivement avec un carton rouge qui a changé évidemment la donne. Mais le fait de partir en tout cas avec des intentions positives, souvent désinhibe un peu les joueurs et fait que on fait un match, on part dans un match en tout cas avec des bonnes intentions, et c'est plus facile.
Vincent, tu es à la fois ancien joueur du PSG, mais aussi toujours amoureux et supporter du PSG. Quand tu as vu ce tirage au sort, Dortmund qui a sorti l'Atlético, est-ce que tu t'es dit que c'était forcément un bon tirage par rapport aux caractéristiques du PSG, ou quand on est en demi-finale, il n'y a plus de bon tirage?
Bah, avant le tirage, déjà, il y avait la transversale, entre guillemets, de se dire que c'était Barcelone, Dortmund éventuellement, ou l'Atlético. Donc, on envisageait de se dire que c'était un bon tirage, parce qu'on évitait City et Real de Madrid. Mais après, quand on arrive en demi-finale d'une compétition européenne, c'est jamais simple. Toutes les équipes que l'on joue, si elles sont là, c'est qu'elles ont des atouts. Et d'autant plus quand on a joué un adversaire en poule, déjà, qu'on a battu, et ça c'est peut-être un peu plus compliqué au niveau psychologique, parce qu'on a l'impression d'avoir l'ascendant, et l'adversaire qu'on a battu, bah lui il est plus revanchard, donc il y a une motivation naturelle qui se fait chez celui qui a été battu, et un peu moins chez celui qui a battu. Donc il y a aussi ce danger là. Enfin, mais après, bon, en demi-finale, les arguments, il y en a des deux côtés.
Un mot, Vincent, sur l'évolution du Paris Saint-Germain, sur le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, et sur aussi l'apport de Luis Enrique. On a beaucoup évoqué ce coach expérimenté qui a évidemment gagné la Ligue des Champions, qui est une référence. Comment tu juges l'évolution de ce Paris Saint-Germain, même si voilà, ça ne fera pas que le PSG gagnera la C1, mais comment tu juges cette évolution et l'apport de Luis Enrique?
Bah après, enfin, la problématique, c'est que Luis Enrique n'a pas été confronté à ce qu'a eu peut-être Pochettino ou les autres entraîneurs. C'est-à-dire, là, dernièrement, bah, avoir Messi, Neymar, Mbappé à gérer, c'est quand même beaucoup plus compliqué que l'effectif qu'il a cette année. Même s'il y a Mbappé, mais bon, c'est quand même beaucoup plus simple, les entraîneurs qu'ont eu, comme Christophe Galtier aussi, à avoir ces joueurs à gérer. C'est très compliqué, parce que dans l'approche tactique, y a des choses qu'on peut pas mettre en place. C'est très très difficile. Donc là, Enrique profite de ça. Et bon, après, je pense qu'il a bien fait évoluer cette équipe au niveau de l'homogénéité relationnelle. Et ça, c'est important, parce que une équipe, c'est avant tout des relations humaines, et c'est important d'avoir un groupe soudé, surtout dans dans ces joutes-là où là on arrive dans les dernières étapes et il faut vraiment être solidaires les uns avec les autres, même au plus haut niveau, et c'est ce qui souvent fait la différence. Et on retrouve des fois des équipes, on se demande ce qu'ils font là, mais parce que il y a une cohérence, une solidarité très forte entre les hommes, et ça dépasse des fois le talent et la qualité. Donc voilà, cette année il y a peut-être un peu plus ça effectivement sur la mayonnaise humaine collective qu'on ressent davantage.
Vincent, si on se place un petit peu plus sur le jeu, vous, ce que propose le Paris Saint-Germain cette saison, c'est ce que fait de mieux le PSG depuis plusieurs années maintenant, ou pas forcément? Parce que c'est vrai qu'il y a cette question de groupe, de vie de groupe, du quotidien qui est importante. Luis Enrique a un rôle prépondérant en ce sens-là. Mais sur le plan du jeu, sur la qualité de jeu proposée, est-ce que ce Paris Saint-Germain vous a convaincu cette saison?
Non, sur la saison, non. L'ère Laurent Blanc, pour moi, était l'ère où il y a eu la plus grande maîtrise, mais bon, c'était une période à un moment donné. Il n'y a pas un jeu collectif où il y a vraiment une mainmise avec des variations de jeux combinés. C'est souvent fait par l'individualisme, très souvent, même s'il y a un jeu collectif qui est très présent, mais je trouve moins un jeu collectif où les milieux de terrain ont une part forte dans ce qui se pratique. C'est souvent des joueurs qui sont là, qui sont présents dans la récupération du ballon, mais surtout après dans l'évolution du jeu, mais sans se projeter vers l'avant ou sans faire des différences, sans être spécialement très très décisif sur le jeu que pratique le Paris Saint-Germain.
Vincent, une petite dernière question pour toi. Depuis le stade avec Philippe Sanfourche et Nicolas Georgerot, à maintenant 25 minutes du coup d'envoi, messieurs.
Ouais, au moment où les Parisiens sont rentrés sur la pelouse pour effectuer leur échauffement. Salut Vincent, tout d'abord.
Et, ouais, salut.
Alors deux petites questions très très rapides. Déjà, tu parlais des milieux de terrain. On se souvient tous de ton but face à Barcelone qui avait déclenché la qualification en quart de finale. Le Parc des Princes en tremble encore. On a retrouvé un peu cette caractéristique avec Vitinha, avec Zaïre Emery. Ils tirent de loin. C'est-à-dire que on voyait plus ça au PSG ces dernières saisons. Est-ce que pour toi c'est décisif et ça peut changer la donne? Et puis petite question aussi sur l'aventure collective, parce qu'on se souvient quand vous avez remporté la Coupe d'Europe en 96. Alors c'était pas la Ligue des Champions, mais c'était consécutif à vous avez fait 5 demi-finales consécutives de Coupe d'Europe. En fait, ça se construit une victoire en Coupe d'Europe. Et là, on a l'impression que ce PSG, qui est à sa 3e demi-finale en 4 ans, on a l'impression qu'il commence à avoir l'habitude de ces hautes sphères. Est-ce que tu les sens justement dans la même dynamique que vous à l'époque?
Ouais, bah ça c'est très important, c'est de pouvoir un petit peu se hisser dans les dernières étapes d'une compétition, se frotter à des concurrents. Donc tout ça, ça acquiert du savoir-faire, de l'expérience, et ils sont dans ce bon sens-là. En tout cas, le Paris Saint-Germain, je pense que ça fait un petit moment effectivement qu'ils vont dans le dernier carré, ils vont en finale. Enfin, donc il y a une expérience à la fois du club, à la fois des joueurs aussi, même s'il y a une évolution parce qu'il y a des changements effectivement dans les effectifs, mais tout ça conquiert justement aller vers le un moment donné de décracher la timbale. Et je pense que le travail est bien fait dans ce sens-là, et pourquoi pas cette année.
Allez, pourquoi pas pour
après,
le Paris Saint-Germain.
Et après, sur les milieux de terrain, je pense que c'est important aussi d'avoir des joueurs qui marquent. Vitinha, il prouve depuis quelques temps qu'il est capable de faire autre chose que d'être dans l'entrejeu, récupérer des ballons et orienter le jeu. Donc ça, c'est aussi important d'avoir une polyvalence. Mais il faudrait qu'il y ait plus de joueurs dans ce cadre-là au niveau du milieu de terrain parisien.
Vincent, rendez-vous la semaine prochaine aussi au Parc, et puis on l'espère tous le 1er juin à Wembley.
Voilà, exactement, à Wembley.
Ça serait parfait pour le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup en tout cas Vincent d'avoir été avec nous pour évoquer ce Paris Saint-Germain en déplacement à Dortmund ce soir pour le match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Coup d'envoi dans 22 minutes en intégralité évidemment sur RTL jusqu'à 23h. On marque une courte pause, on prend la direction de Marseille où demain il y a une demi-finale de Ligue Europe entre Marseille et l'Atalanta, et puis on accueillera David Lortelard également pour évoquer cette équipe de Dortmund, ce stade exceptionnel avant l'entrée des deux équipes sur la pelouse où on va vivre une grande grande soirée sur RTL. RTL, ne bougez pas.
RTL Foot. RTL Matin. L'œil de Philippe Cavrivière.
Alors, j'ai lu l'article du Figaro. Il y a le directeur de recherche de l'INSERM, Jean-Marie Robin, qui explique « La multiplication des centenaires s'explique par la diminution de la mortalité avant 100 ans. » Donc, c'est parce que tu ne meurs pas avant 100 ans que tu vis après 100 ans. Et ça, c'est le directeur. Eh ben, bravo.
Les chroniques de Philippe Cavrivière, c'est chaque matin à 7h55 sur RTL et aussi à 8h30.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô, patron ?
Oui, allô.
Allô de Volvic, patron. Parce qu'en ce moment, chez Lidl, le pack de 6 bouteilles d'un litre 5 de Volvic est à 3,18€ et le deuxième est à moitié prix, soit 1,59€.
Moins 50% sur le deuxième pack ? C'est une offre...
Très volcanique, comme la Volvic.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 35 centimes le litre pour un pack, 27 centimes le litre pour deux packs. Offre valable jusqu'au mardi 7 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr.
RTL Foot, présenté par Eric Silvestro.
Vous le savez, ce soir et demain, deux soirées spéciales. L'événement, c'est évidemment sur RTL, ces deux soirées de Coupe d'Europe, ces deux demi-finales. La Ligue des Champions ce soir, Dortmund-Paris-Saint-Germain. La Ligue Europe demain, avec Marseille-Atalanta, que vous pouvez vivre simultanément sur M6 en télévision et sur RTL en radio, avec Hugo Hamelin qui sera au commentaire au Vélodrome avec Mickaël Lefebvre. Hugo qui est avec nous. Salut Hugo.
Salut à tous.
Salut Hugo.
Attentivement, je le sais, en tant que Marseillais, le match du PSG ce soir, mais qui se concentre bien aussi, sûr, évidemment, sur le commentaire de Marseille-Atalanta demain. On est à la veille du match. Les Marseillais qu'on n'imaginait pas, soyons honnêtes, forcément, en demi-finale de la Ligue Europe, on est ravis pour le foot français. Les Marseillais, ils ont un coup à jouer, ils ont quelque chose qui va avec eux. Voilà, cette année, une sorte de baraka pour certains, de réussite pour d'autres, de continuité, de connaissance européenne pour d'autres encore. Et oui, Marseille-Atalanta, là aussi, le tableau est alléchant. Ça aurait pu être Liverpool. Atalanta est une très belle équipe, mais c'est pas Liverpool. Donc on y croit, j'imagine, à Marseille.
Oui, bah elle est un peu surnaturelle, on va dire, cette campagne européenne pour Marseille. Nous, entre suiveurs de l'OM, on appelle ça l'épopée des éclopés. Voilà, pour te dire un peu le tableau. C'est vrai c'est des joueurs qui ont du mal en Ligue 1 et puis qui arrivent à se transcender quand il y a les matchs européens, et en tout cas qui sont parvenus à s'en sortir. C'était au tir au but en quart de finale face à Benfica. Mais ouais, effectivement, l'Atalanta Bergame, c'est moins ronflant, comme l'a dit Jean-Louis Gasset en conférence de presse, que la Juventus, le Milan AC ou Liverpool, mais ça fait tout aussi peur parce que ça fait 8 ans qu'ils ont le même coach, qu'ils ont un système de jeu très très défini avec un énorme impact physique, et donc on a hâte de voir ce que ça va donner face à Marseille.
C'est quand même génial de se dire qu'on est début mai, qu'on a deux soirées européennes sur RTL et deux clubs français en demi-finale de deux Coupes d'Europe différentes, Karine. Franchement, moi je me dis c'est top.
Ah bah oui, non, c'est fabuleux, surtout quand on repense à ce qui s'est passé à Marseille sur cette saison 2023-2024. Elle est partie en cacahuète très vite, il y a eu quand même trois coachs. Marseille est une équipe qui ne produit pas beaucoup de foot, qui a des éclopés, qui a des joueurs revanchards. Ils sont en demi-finale de Coupe d'Europe. Personne n'aurait imaginé ça il y a quelques semaines. Tout le monde aurait signé pour ça aussi. Mais le problème, c'est que ce n'est pas non plus suffisant. Les comptes, on les fera en fin de saison. Mais si ça s'arrête avec une demi-finale ou même une finale, le bilan de Longoria, il ne sera pas bon. Mais pour l'instant, Marseille a encore le droit de rêver. Ça sera très compliqué sur les deux matchs. Mais honnêtement, Marseille, voilà, c'est une petite bouffée d'air frais dans cette saison qui a été très compliquée avec des très hauts, des très bas et
Hugo,
des rebondissements.
On parle beaucoup.
Laisse-nous sur notre nuage une semaine, Karine, s'il te plaît.
Non, mais je te dis... Attends, il faut voir
le
déjà 8, comment ça
le
se
finit
demain soir.
Il est quand même exceptionnel, Hugo. Il dit ça, laisse-nous sur notre nuage. Il parle des clopés, quoi. Il est quand même sympa.
Ah mais... C'est factuel. Et d'ailleurs, des éclopés, il y en a encore pas mal. Hein. Niveau infirmerie, là, c'est encore assez dramatique.
Un petit peu.
Mais bon, quand même, le côté de la défense, hein, je veux juste vous parler de la défense. Samuel Gigot est suspendu, donc. On a trois joueurs incertains. Mbemba, là, on l'a vu s'entraîner tout à l'heure à la commanderie, mais on assiste aux 15 premières minutes d'entraînement où forcément, c'est pas très intense. Il est touché au ménisque, il est sorti depuis le Classico face au PSG, qui est une blessure compliquée à gérer pour le staff. Il y a Amir Mourinho, qui était un miraculé après sa blessure aux ischio, il est sorti légèrement touché dimanche soir face à Lens. Ce sera le retour de Quentin Merlin qui avait été touché, qui avait la cheville de la taille d'un ballon de handball après le match aller à Benfica il y a trois semaines. Donc voilà, t'as trois défenseurs qui vont revenir, qui sont internés, voilà, qu'on va aligner, parce que Mbemba, il va être aligné demain. Voilà, mais dans quel état
il va sans doute faire comme il avait fait contre Benfica. Il avait joué une mi-temps, même. Bah, il était revenu de blessure. Il avait joué 46 minutes jusqu'à l'entrée de Murillo, qui lui aussi revenait de 3 mois d'absence pour cause de blessure et d'opération au niveau des adducteurs. Donc effectivement, il faut bricoler, mais il y a cette histoire d'amour quand même. Elle est folle, cette histoire d'amour avec la Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille, parce que quand on regarde la saison, jamais on peut penser, vous avez raison d'insister là-dessus, sur le fait de retrouver l'OM dans le dernier carré de la Ligue Europa. Il y a aussi un parcours, il y a aussi un tirage, mais bon, tu sors quand même Villarreal, tu sors Benfica, qui n'est pas le meilleur Benfica, mais c'est quand même un grand d'Europe, et là tu te retrouves à jouer l'Atalanta, qui a moins de d'histoire et moins de vécu sur la scène européenne. Ce sera la deuxième demi-finale simplement de Coupe d'Europe pour l'Atalanta, c'est important de le préciser, contre la huitième pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il y a un vécu.
Leur deuxième après le PSG, ils ont toujours affronté un club français en demi-finale finalement.
Oui, c'est vrai.
On va écouter Jean-Louis Gasset justement pour avoir un peu une atmosphère du coach marseillais à la veille donc de cette demi-finale face à l'Atalanta.
Il n'y a pas de pression particulière. On n'a pas encore abordé l'Atalanta de Bergame avec les joueurs pour ne pas les perturber. Il y a des gens qui en parlent autour de nous, bien sûr. Jordan les a joués quand il jouait en Italie. Personnellement, j'ai pris le petit déjeuner avec Fabrizio Ravanelli, qui m'a dit « l'équipe est difficile ». Mais on essaye d'enlever toute pression aux joueurs pour rentrer dès cet après-midi un peu plus dans le match. Et à partir de demain matin, vivre l'événement, mais ne pas perdre d'énergie à l'appréhension.
Il a des petits déj sympas.
Je sais pas s'il prendra un bon petit déj demain, en tout cas, parce qu'il faut prendre des forces quand même.
Bah oui, mais écoutez, moi j'aimerais bien un petit déjeuner avec Fabrizio Ravanelli. Il nous a fait rêver.
Écoutez, on lance l'invitation.
En ce moment, il est tout le temps à Marseille.
Bah oui, mais il a toujours dit que de toute façon il n'aurait jamais quitté Marseille si malheureusement il n'avait pas eu des problèmes familiaux.
Mais c'est vrai que sur le match de Villarreal, il était là. Sur Benfica, il était là. Il fait les déplacements aussi.
C'était le joueur préféré de ma meilleure amie.
Eh ben écoutez,
voilà.
On la salue. Sophie. Oui.
Donc, qui aimait bien les joueurs qui se faisaient des croche-pattes, alors c'est ça.
Pas du tout.
Les cheveux grisonnants.
Je plaisante. Oh là là.
Elle aimait les renards de surface qui marquaient des buts et mouillaient le maillot.
Ah, elle préférait Filippo Inzaghi alors.
Oui, enfin Filippo Inzaghi n'a jamais joué à l'OM, je vous rappelle. Et elle était supportrice de l'OM.
C'est pas faux. Hugo, pour terminer, avant de retourner à Dortmund dans cette ambiance complètement folle du Signal Iduna Park, justement, il y aura une ambiance aussi dingue au Vélodrome parce qu'en ce moment, c'est incandescent et demain, les joueurs de l'Atalanta, ils vont être reçus.
Sur le match aller, puisque forcément le match retour ce sera à Bergame. Juste un chiffre, entre 150 et 200 euros la place en virage nord demain au Vélodrome. C'est simple, c'est le prix de l'abonnement à l'année en virage qui donc peut être dépensé sur une place. Mais voilà, il y a un petit côté survivor dans cette équipe de l'Olympique de Marseille cette année qui fait qu'il n'y a pas de pression et qu'en fait c'est un peu que du bonus quoi. Je sens moins de pression qu'il y a 6 ans face à Salzbourg.
Tu vois Hugo, je te parle de passion, de chant, de cri, tu me parles d'argent.
Non mais c'est surtout que c'est scandaleux parce qu'en fait une place d'abonné normalement elle peut pas être vendue. Tu peux la céder à quelqu'un pour un match, mais elle devrait pas être vendue.
Il n'y a pas des abonnements avec la Coupe d'Europe comprise.
Mais non, mais dans tous les stades, évidemment, il y a des petites magouilles comme ça, mais c'est dommage.
On rappelle qu'il y aura quasiment 3000 supporters de l'Atalanta, 2800. C'est toujours cette jauge des 5% pour les déplacements et que malheureusement.
C'est bien.
Pour cause de travaux du côté de Bergame la semaine prochaine, c'est quand même pas la même chose parce que la jauge, elle est à 15 000. Donc du coup, il y aura 750 places simplement allouées aux supporters de l'Olympique de Marseille. Donc c'est quand même résolument différent. Ça a un peu agacé les supporters de l'OM.
Atalanta, ce sera demain.
Ils vont tout donner demain.
Et ce sera sur RTL avec Hugo Hamelin, Mickaël Lefebvre. Merci Hugo, on te laisse passer une bonne nuit.
Merci à vous. Bon match.
Il faut dormir, même s'il y a de la pression.
Prends un bon petit déj demain.
Et un bon petit déj.
Allez le BVB.
Non. Là, c'est le foot français qui est à l'honneur. Mais c'est aller le Paris Saint-Germain. Non, mais c'est terrible.
C'est scandaleux.
C'est absolument terrible. Allez, on marque une très courte pause et on part à Dortmund. On est à 13 minutes du coup d'envoi de ce Dortmund Paris Saint-Germain demi-finale aller de Ligue des Champions.
RTL Foot.
Mon rêve, c'est de devenir astronaute pour réparer la Terre si elle se casse. Dans mon rêve, j'ai visité un centre aéronautique. Ce rêve, c'était la semaine dernière.
L'association Petit Prince donne vie aux rêves des enfants malades. Vous êtes en Île-de-France et disponible 2 jours par semaine? Devenez bénévole. Envoyez votre candidature sur
petitprince.com.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Demain, 2 mai, je vous parlerai de l'issue d'une bataille héroïque, celle de Massada en Judée. C'était le 2 mai 73 après Jésus-Christ. Massada, will never fall again, pour ceux qui connaissent.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À demain.
RTL Foot.
Avec Eric Silvestro.
La phrase est dedans. C'est dedans. but Kylian Mbappé. La qualification assurée désormais du Paris Saint-Germain. Ça monte, c'est terminé. Le Paris Saint-Germain est en demi-finale de Ligue des Champions au terme d'une véritable remontada.
Dans tous les domaines, je pense que nous avons progressé depuis le début de saison.
Le Paris Saint-Germain, tombeur de Barcelone, qui défie donc Dortmund ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions. Lors de la phase de poule, le PSG avait gagné 2-0 au Parc, un partout. Le match retour au Signal Iduna Park, on est à un peu plus de 10 minutes du coup d'envoi. Philippe, Nicolas, tout se met en place.
Oui, on est en demi-finale de Ligue des Champions, mais on voit que le bout du chemin n'est pas très loin, puisqu'on avait la Ligue des Champions, la Coupe aux Grandes Oreilles, qui était une vingtaine de mètres devant nous et qui a passé tout cet avant-match au bord du terrain, devant les différents staffs, devant la presse. Wembley n'est plus très loin, c'est dans un mois, jour pour jour, où il y aura cette finale Ligue des Champions.
Elle n'a pas voyagé très loin, parce que hier elle était à Munich.
À Munich, et oui, deux clubs allemands engagés en demi-finale de cette Ligue des Champions, 2-2 hier entre le Bayern Munich et le Real Madrid. David Lortolari, notre voix allemande, est également avec nous. Salut mon David.
Servus, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Bon, salut David. Parle-nous un peu de cette équipe de Dortmund, on l'a déjà un peu évoqué, mais on sait que c'est une équipe qui peut mettre le feu offensivement, qui a des grosses lacunes défensives, beaucoup de lenteur, mais chez elle, elle est capable d'emballer certaines rencontres. Il faudra peut-être que le PSG soit prudent.
Oui, absolument. Il faut pondérer les faiblesses de Dortmund actuellement par ce stade incroyable, 83 000 personnes. On a vu des images, peut-être nos auditeurs ont vu des milliers de supporters converger. Il y a eu un code vestimentaire qui a été demandé, c'est le jaune, ça ne vous étonnera pas. Et je pense que ça va faire du bruit et de la couleur ce soir dans le stade. Nos reporters peuvent en témoigner sur place. Il y a trois changements très importants par rapport à la déroute, Eric, du week-end. Le 1-4 contre le RB Leipzig, trois changements très importants. Les retours de joueurs essentiels cette saison à Dortmund. Emre Can, le capitaine, il y a besoin de lui pour équilibrer cette équipe, pour stabiliser la structure. Marcel Sabitzer, qui est l'homme en forme du moment, l'Autrichien au milieu de terrain, l'homme à tout faire, qui peut aussi être dangereux offensivement. Et puis le jeune Madsen dans un couloir qui est vraiment indispensable pour apporter lui aussi de la folie, de la fougue offensivement. Donc ce sont trois joueurs essentiels de retour pour Dortmund par rapport au match du week-end, cette lourde défaite contre Leipzig.
Et on attend, hein, on entend Nicolas Jean-Jean, Philippe Sanfourche, ça chante déjà, hein, dans les tribunes, ce public qu'on ne cesse de vanter.
Là, c'est religieusement qu'on va écouter le You Never Walk Alone, parce qu'évidemment, la version originelle, elle est du côté de Liverpool, du côté de Glasgow aussi avec le Celtic, mais Dortmund a su la sublimer, la magnifier. Et là, on regarde le mur et on écoute la chanson.
Que d'assister à un match de foot, quoi. Non, mais cette chanson, elle est fantastique. C'est-à-dire que tu peux être à 83 000 personnes dans une demi-finale de Ligue des Champions et avoir envie de l'énergie du foot, et en même temps, tu pourrais danser un slow ton amoureuse.
Mais je savais pas que c'était connu pour être également une danse de slow.
Non, alors, mais
pourquoi
non,
pas.
Mais
vous pouvez lancer ça.
Ça pourrait marcher.
Écoutez, pourquoi pas. J'étais surprise.
C'est peut-être un vieux fantasme.
Proposition, mais pourquoi pas. Écoutez, Eric, nous, ça s'étudie.
Même là, je veux dire, on a des frissons qui sont terribles, donc j'imagine Nico
Philippe, Nicolas au stade, ça doit être dingue.
Ils profitent de ce moment.
C'était fort en décembre dernier déjà, mais il y a un petit peu plus encore en cette demi-finale aller de Ligue des Champions, évidemment suivie très religieusement par tout le monde, mais c'est quand même une certaine puissance qui se dégage comme ça dans cet avant-match.
Mais vous savez que ce n'est qu'un échauffement.
On fait des petites vidéos et on vous les ramènera, on les postera sur les réseaux sociaux.
Ah bah évidemment,
il n'y a pas assez de réseaux.
Et à vivre sur RTL.fr.
C'est forcément assez formidable.
Vous savez que ce n'est que le début des émotions. Hein.
Ah. Il y a même le jump, sinon.
Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que la musique de jump fait
Parce qu'il tease notre soirée de demain, Eric.
Ah, non, mais d'accord, mais il mélange tout. Non, je veux dire, il y aura beaucoup d'émotions sportives là déjà au mois de mai sur l'antenne de RTL.
Et demain ?
Et derrière, il va y avoir l'Euro sur RTL, il va y avoir les Jeux Olympiques, il va y avoir le Tour de France, il va y avoir Roland Garros. Vous allez vibrer avec RTL, avec le sport tout au long de l'été.
Et faire des slows tous les soirs.
Et puis quand les JO seront terminés, il y aura les Paralympiques, il y aura la reprise de la Ligue 1, et hop, on sera reparti.
Ça ne s'arrête jamais.
Un éternel recommencement. C'est ça le bonheur du sport. David, un petit mot, on en a beaucoup parlé depuis le début de l'émission, mais c'est une caractéristique particulière de ce stade, ce mur jaune avec ses 25 000 spectateurs. J'aimerais qu'on écoute Benjamin Stambouli qui lui a fait face à ce mur jaune avec le maillot non pas du Paris Saint-Germain mais avec le maillot de Schalke. C'est encore pire, c'est l'ennemi juré dans le derby de la Roue. Il nous en parle, il en a parlé à Philippe Sanfonge de ce mur jaune, écoutez-le.
Bah, c'est un stade qui est assez spécial et en plus bon, moi c'était lors du derby de la Roue que je les affrontais, mais c'est un stade qui fait du bruit. C'est un stade qui croit toujours, qui se retourne pas contre son équipe. Donc, peu importe le scénario, ils vont pousser, ils vont être aux côtés de leur équipe. Ils savent aussi qu'ils doivent jouer de ce match aller pour profiter de l'instant présent, d'être à domicile, d'être tous ensemble. C'est une région où, que ce soit Schalke, que ce soit Dortmund, c'était des régions minières, c'est la solidarité. Donc, ils vont jouer sur ça, ils vont jouer sur. Voilà, ils savent que le mur jaune, qu'on le veuille ou non, ça reste impressionnant. Maintenant, voilà, les joueurs du PSG, je pense qu'ils ont la capacité d'être dans leur petite bulle, de se concentrer sur le terrain pour faire la différence. Mais c'est un stade qui forcément rajoute quelque chose de spécial à ce match.
Les deux équipes qui vont rentrer sur la pelouse dans quelques minutes. David, sans faire offense aux joueurs de Dortmund, on sait qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. J'ai presque envie de dire que ce stade, ce mur, ces supporters, c'est peut-être presque le plus gros point fort de Dortmund face au Paris Saint-Germain.
Oui, c'est un gros point fort, surtout pour pousser l'équipe locale, évidemment, hein, mais c'est un facteur incroyable parce que ce stade est configuré de manière unique. C'est-à-dire, vous êtes dans le but avec le mur jaune derrière vous, vous vous retournez et vous avez l'impression d'une tribune qui n'en finit pas. C'est-à-dire, c'est un espèce de mur, mais très haut, infranchissable. Et forcément, il y a une influence parce que vous n'avez ça nulle part ailleurs. C'est une force pour les joueurs. Et effectivement, Benjamin Stambouli a raison. Le club joue beaucoup dessus aussi, mais ça peut être une manière de déconcentrer l'adversaire aussi, peut-être à l'occasion d'un coup franc, d'un pénalty, de scènes de jeu particulières. On va suivre ça de près et je sais que les reporters sur place vont nous décrire ça merveilleusement.
Évidemment, David, on te retrouve à la mi-temps pour débriefer cette première période de Dortmund-Paris Saint-Germain.
À tout à l'heure.
Juste avant l'entrée des deux équipes sur la pelouse, Philippe, Nicolas, les Parisiens aussi brandissent très fièrement leurs écharpes aux couleurs bleu, blanc, rouge du Paris Saint-Germain et de la France ce soir dans le Signal Iduna Park.
Ils font le match, ils sont pas le même nombre évidemment, mais dans l'intensité, ils sont là, ils ont beaucoup donné de la voix sur l'avant-match. Les publics en tout cas sont à la hauteur d'une demi-finale de Ligue des Champions, ça c'est clair.
Les deux équipes qui vont rentrer sur la pelouse dans quelques secondes avec l'arbitre Anthony Taylor.
Anthony Taylor, c'était l'arbitre du quart de finale aller entre le Paris Saint-Germain et le Barça, la victoire catalane au Parc des Princes 3-2. Anthony Taylor, 45 ans, qui est évidemment l'un des sifflets référence en Ligue des Champions au moment où les deux formations pénètrent sur cette pelouse dans cette très très belle ambiance où tout le monde donne de la voix. C'est un moment important et évidemment aussi que les premières minutes vont beaucoup compter pour être tout de suite dans le rythme, dans l'intensité de ce match.
Ouais, c'est Marquinhos qui le premier est sorti du tunnel avec un jeune enfant qui l'accompagne. Chaque joueur qui tient la main évidemment d'un jeune joueur. Les Parisiens qui sont en blanc ce soir, qui vont jouer en blanc comme à Barcelone lors de la qualification en quart de finale. Le Borussia sera évidemment dans ses couleurs traditionnelles noires et jaune, alors que quelques fumigènes se sont allumés dans le parquage parisien. Ça va coûter.
On sait où ils sont, les Parisiens, on les repère tout de suite.
Que menu zéro à la direction du Paris Saint-Germain, parce que l'UEFA ne badine pas avec ça, surtout à ce stade des demi-finales.
Et juste avant la musique de la Ligue des Champions, pour ceux qui ne connaissent pas, le couloir d'entrée du stade est extrêmement étroit, faut pas être claustrophobe, les joueurs se touchent littéralement, tellement c'est étroit. C'est aussi une spécificité de ce stade de Dortmund.
À l'époque de Vieira Kean,
ça se chauffait d'entrée.
Ouais, mais là, il se serait mangé juste dans le couloir. Là.
La musique de la Ligue des Champions avec les Parisiens et les joueurs de Dortmund alignés face au public. secondes de patience pour le coup d'envoi. Ne bougez pas, RTL Foot spécial Dortmund-Paris-Saint-Germain. 20h58. Et juste avant le coup d'envoi de ce Dortmund-PSG, l'essentiel de l'actualité avec Rémi Jacob. Bonsoir Rémi.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Ils étaient, selon la CGT, plus de 200 000 manifestants aujourd'hui dans les rues de France en ce 1er mai. 121 000 selon le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation donc moins importante que celle de l'an dernier en pleine réforme des retraites. À noter que dans le cortège parisien, quelques tensions ont éclaté en fin de manifestation. Des incidents à signaler également à Nantes et puis à Saint-Étienne. Raphaël Glucksmann a été empêché de rejoindre le cortège par une cinquantaine de personnes, dont des militants pro-palestiniens. Un 1er mai également marqué par le grand meeting que tenait le Rassemblement